et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Jonathan!
Salut Darina!
Comment tu vas?
Bah écoute, pas trop mal. Petit jour de congé aujourd'hui, donc c'est très calme. C'est très bien.
Vendredi off, ça fait du bien.
Exactement. Ça permet de couper un peu.
Exactement. Bon bah écoute, petite tasse de café, petit plaid, et puis c'est parti quoi pour la conversation.
Parti. Exactement.
Alors toi Jonathan, tu es Enterprise Customer Success Manager chez Slack. Une plateforme de communication collaborative qu'on ne présente plus d'ailleurs. Moi, à titre perso et plutôt pro, j'utilise tous les jours depuis, je ne sais pas, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et toi, en ce qui te concerne, tu travailles chez Slack depuis bientôt 3 ans. Et avant ça, tu avais passé 2 ans chez LinkedIn.
Donc, c'est ça.
Super parcours.
Ouais. Ouais, que 2 ans chez LinkedIn, j'ai toujours eu l'impression que ça avait été plus long, mais 2 ans, et puis c'est Slack qui est venu me chercher, derrière chez LinkedIn, donc c'était une super opportunité. C'était un produit que je ne connaissais pas du tout, je vais être honnête, à la base, et puis c'est juste quand j'ai vu les retours clients, je me suis dit que tout le monde était content de ce produit, donc j'avais envie de me plonger un petit peu dedans, et puis ça a été une super opportunité. En 3 ans, on a vécu... une croissance rapide de la boîte, on a vécu une introduction en bourse, on a vécu une acquisition. Donc ouais, c'est un chemin qui est très intéressant.
Et quand Slack est venu te chercher, ils t'ont envoyé un email sur LinkedIn ou ils t'ont envoyé un Slack?
Non, sur LinkedIn, c'était sur LinkedIn. Pour le coup, ils avaient été chercher sur la bonne plateforme.
Oh.
Ah, c'est là où je passais ma vie hein, aussi.
C'est sûr.
C'est plus facile.
Ils ont utilisé l'outil LinkedIn pour t'en faire partir. Ils sont forts.
Ouais, très très fort. Très très fort. Et puis juste avant LinkedIn, j'étais chez Capgemini, donc je faisais du conseil. Donc j'ai pas un parcours commercial, disons classique, tu sais, à passer de BDR à AI, voire Relationship Manager ou Account Manager. Moi je viens vraiment du monde du conseil et j'étais chez Capgemini à Toulouse.
Ok, top. Je ne t'ai même pas posé ma question rituelle avant de commencer, c'est quel est Jonathan ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Alors, moi, je vis en Irlande depuis presque 5 ans maintenant. Et j'avoue que... Alors, je vais peut-être pas prendre un truc irlandais, mais si j'ai à revenir en France, je vais me jeter sur une planche, tu sais, une planche de fromage et de charcuterie. Ça me fait toujours bien plaisir. C'est peut-être le truc qui me manque le plus ici.
Mais vous mangez quoi en Irlande?
On mange de tout. C'est l'Europe, hein, quand même. Hein. On a quand même accès à un peu de tout. Mais... si j'avais à choisir un plat irlandais, tu vois, ma compagne est irlandaise et je pense que le rôti du dimanche, c'est le rôti d'agneau là, avec la sauce à la menthe, qui est peut-être le truc le moins aimé par les Français de base dans l'idée. Et en fait, je suis complètement tombé amoureux de cette sauce à la menthe un peu vinaigrée, c'est très bon. Donc voilà, le rôti du dimanche.
Donc t'aimes les trucs dégueux, c'est pour ça que t'as été de l'autre côté de la Manche, c'est bon, j'ai compris.
Ah, t'es dur avec moi, t'es dur.
Bon, on commence. Non, mais très chouette. En tout cas, bah, encore une fois, merci d'être là. Et je voulais quand même commencer en faisant un petit clin d'œil à François du podcast CSM Zenco qui t'a déjà interrogé. C'est hyper intéressant. Donc, j'invite aussi les auditeurs à aller écouter ton épisode. Et là, on va faire en sorte d'avoir des infos complémentaires, bien évidemment.
Avec plaisir.
Pour commencer, donc, tu en as dit quelques mots sur ton parcours, mais je voulais en savoir un peu plus sur toi, donc je te laisse à présent sortir de l'anonymat.
Comme je te disais, ça fait 5 ans que je suis en Irlande et je n'ai pas du tout prévu de rentrer en France. Je me plais énormément ici. Je suis plutôt en train de me dire, finalement, avec les nouvelles façons de bosser, la possibilité de pas forcément de vivre dans une grande ville, je me verrais bien avec une petite maison au bord de la plage sur une côte paumée en Irlande. Ça m'irait très bien tout en continuant à bosser dans la tech.
T'as quel âge là?
J'ai 32, je vais sur les 33.
Ok, ça marche. Donc ton parcours de vie est un peu tracé là pour l'instant. Tu te vois bien dans quelques années toujours dans la tech?
Ah ouais, j'adore bosser dans la tech. Et puis tu sais, c'est compliqué. Je le dis parfois à certains clients pour leur expliquer un petit peu le nouveau monde dans lequel ils rentrent avec Slack. Je leur disais, quand je suis passé de Capgemini à LinkedIn, LinkedIn c'était full cloud, c'était incroyable les nouvelles manières de bosser. J'ai eu l'impression de doubler ma productivité sans rien faire, juste en utilisant des nouveaux outils. Et puis en passant de chez LinkedIn à Slack, j'ai eu l'impression de doubler encore ma productivité. Et je me verrais mal, quitte à rester dans le monde de l'entreprise, dans le monde corporate, à repartir dans un univers qui est pas très bien équipé ou pas aussi bien équipé. C'est dur hein, de faire un bond en arrière. Donc non, franchement, j'adore bosser avec ces nouvelles techno, être au top de ce qu'on peut faire.
Bon, bah, je compte sur toi à ce moment-là pour nous amener dans le futur avec cet épisode.
Avec plaisir.
Et je te propose de commencer par la partie métier. Est-ce que tu peux me décrire la structure business chez Slack ?
Ouais, alors la structure business, elle est assez classique. Hein. On a évidemment le top du funnel qui est marketing. Et puis derrière, on va avoir nos BDR, SDR, donc les business managers, business developer managers, qui vont faire de l'outbound et de l'inbound. Sur le produit Slack, on est sur du freemium, donc on a souvent un démarrage qui est en gratuit, et puis après, il passe en payant, en carte bleue, et puis après, il passe sur des structures plus pour déployer au reste de l'entité, voire du groupe. Et puis, sur la structure business, une fois que tu es passé par cet outbound-inbound, tu passes sur un account exécutif qui va bosser avec un solution engineer, donc tu as un vrai honneur du compte, qui va bosser avec son avant-vente, un solution architect qui va aider un petit peu le client à visualiser le futur de sa collab dans sa boîte. Et puis, une fois que le deal est signé, le solution engineer, souvent, il se met en retrait. Et puis, on a le CSM qui vient en support de l'account exec. Donc, l'account exec, il continue à garder le compte, ce qui est un modèle qui me plaît particulièrement. J'aime pas trop quand il y a une transition d'account manager. Si tu prends une boîte comme LinkedIn, c'est le cas. On a un account exécutif qui, une fois que le deal il est signé, le deal passe chez l'account manager, le relationship manager. Et c'est lui qui va devoir faire grossir finalement le compte. C'est le modèle chasseur et puis farmer derrière. Chez Slack, ce n'est pas le cas. On a un seul account manager et le CSM va venir vraiment travailler en partenariat. Et puis souvent, on bosse sur les grands comptes en mode pod où le CSM va s'occuper de l'existant. Donc, va aider le client à obtenir le must de ce qu'il a. Et puis, l'account exécutif, lui, va continuer à travailler sur faire grossir. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a des nouvelles business units ou des nouvelles entités du groupe, va retravailler avec le solution engineer pour aider à se projeter dans ces différentes branches.
C'est intéressant parce que c'est vrai que 90% ou 99% des organisations qui sont passées sur le podcast suivent le schéma que tu décris en fin de compte avec une vraie passation de chasseur à farmer. Ouais. Et pour certains, et la question se pose, tu vois, une fois que le client est dans les mains de l'account manager, ou du CSM et ou des deux, est-ce que c'est à lui de faire la partie upsell, cross-sell ou est-ce qu'il repasse par la boucle à compte exécutif? Alors que là, toi, chez Slack, si je comprends bien, la question ne se pose pas puisque la compte exécutive, il va être en chasse permanente, que ce soit sur de l'acquisition ou du développement.
Et même quand le compte, il est ce qu'on dit, enfin, excuse-moi pour les termes anglais que je peux utiliser, c'est vrai que je ne bosse plus du tout en français, mais quand le compte, il est full, tu vois, chez nous, que tout le monde est équipé en Slack, la compte exécutive, finalement, qu'est-ce qui va aller chasser sur le compte? Et bien, dans ce cas-là, on fait intervenir dans l'équipe CSM, dans l'organisation CSM, on a des renewal spécialistes qui vont venir sur l'accompagnement du renouvellement du client, mais ils ne vont pas remplacer l'account exec. Ils vont venir pour aider, pour être plus sur la partie contractuelle, la partie legal, veiller à ce que le renouvellement il se passe bien. On a pas beaucoup de churn, tant mieux pour nous. Mais quand même, c'est important qu'on ait quelqu'un qui vienne aider et qu'on puisse aider le VI à se focaliser sur la croissance des autres comptes. Donc tout le temps, on a le VI qui est assigné au compte et qui est vraiment la tête de pont, l'account manager, en avant-vente et en après-vente.
Waouh, mais j'ai l'impression d'être dans une ruche et d'avoir plein de petits bourdonnements de vous êtes combien dans cet orga.
Tu sais, c'est très simple, en fait, on est trois, mais après, on va avoir des gens qui vont intervenir ponctuellement. Donc, comme je te disais, le renewal specialist, lui, peut venir juste 3 mois avant le renouvellement d'un deal pour veiller à ce que ça se passe bien et libérer un petit peu du temps à l'account exec. Donc finalement, c'est toujours un pod de avant-vente, après-vente, solution engineer, puis CSM, avec l'account exec qui possède le compte. Et après, on va avoir des petites mains qui vont venir aider de temps en temps. Donc vraiment, en tant que CSM, on fait partie du pod et moi, je m'occupe du client. Une fois qu'ils ont signé un certain montant, en fait, ils déclenchent automatiquement la présence d'un Customer Success iTouch qui, lui, va venir aider au quotidien le client.
Et tous les clients n'ont pas de Customer?
Pas forcément. Non,
okay.
Pas forcément.
Donc toi, tu vas être basé sur les gros comptes finalement?
C'est ça. Et okay. Puis, je m'occupe aujourd'hui principalement de nos gros clients en Europe de l'Est, en Russie, principalement.
Ok. Parce que, juste que je comprenne bien, Slack, c'est un abonnement annuel ou...
Alors, c'est un autre fonctionnement que je trouve assez intéressant. Je ne sais pas, peut-être que tes auditeurs, ils réfléchissent à ces modes de fonctionnement, surtout sur des startups qui démarraient. Nous, on n'a pas un abonnement annuel. En fait, on utilise vraiment la notion de fair billing à la base. Donc, en fait, quand tu vas t'abonner à Slack, quand tu vas prendre ton compte Slack pour 50 personnes, en fait, tu vas payer automatiquement qu'à hauteur de ton usage actif. Donc, si tu pars sur 50 personnes, en fait, à un moment de ton renouvellement, on va regarder sur toute ton année combien il y a eu de personnes qui ont été actives par jour. Donc, sur tes 50 personnes, peut-être qu'avec les vacances et les choses comme ça, ça va diminuer. Donc, tu vas gagner des crédits. Et donc, tu vas avoir un renouvellement qui va s'effectuer à 50 moins les crédits que tu auras effectués sur l'année.
Ce qui est très flexible. Donc, moi qui utilise le week-end et les vacances, je fais...
Toi, tu es active. Donc, tu seras compté dans les 50 qui sont actives. Mais si tu ne l'utilises pas pendant un mois parce que tu es en vacances, eh ben, tu fais gagner des crédits sur ta facture. Mais ce qui est vachement intéressant, donc ça, à la limite, c'est très intéressant pour les clients déjà de base, mais pour nous aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'on a dit que tu étais à 50 quand tu as démarré, mais au fur et à mesure de l'année, on va retirer tes crédits que tu auras gagnés. Mais aussi, si tu finis l'année et que vous êtes 60 dans la boîte, eh ben, ton renouvellement, il sera automatiquement à 60. Enfin, on va regarder exactement combien il y a eu d'utilisateurs. Donc, peut-être que tu as eu 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 60. Et puis, il y a eu les vacances où vous êtes retombé à 45. Et on regarde, on n'a aucune limite dure. Il n'y a pas de limite directement. Or, dans d'autres boîtes, tu vends 50 licences. Et puis, si un mois plus tard, tu embauches une nouvelle personne, il faut que tu rappelles l'account manager en lui disant « Tiens, tu peux m'en remettre une ou deux. » Enfin, c'est compliqué, c'est pénible, ça apporte aucune valeur au client. C'est vraiment du transactionnel. Nous, tout ça, c'est automatique. Donc, en fait, la négociation et la discussion qu'on va avoir avec le client, c'est s'ils sont 50 aujourd'hui et puis l'année prochaine, ils seront 100, est-ce qu'on fixe... Alors, je dis 100, mais en réalité, c'est des nombres beaucoup plus gros. Mais est-ce qu'on fixe un discount? Est-ce qu'on fixe des conditions dans le contrat? Comment est-ce qu'on va fonctionner, etc. Mais finalement, le nombre, il varie tout le temps. Et tu n'as pas besoin de nous appeler toutes les 3 minutes pour mettre des licences supplémentaires.
Ouais, je ne connaissais pas du tout ce business model. Merci beaucoup pour cette parenthèse.
Ouais, c'est très intéressant, je trouve.
Alors, toi, la grosse main, alors, le Enterprise Customer Success Manager chez Slack, que fais-tu?
Alors, concrètement, et je pense que c'est la plupart du temps quand on voit des CSM, souvent, c'est des onboarding managers. Ils s'occupent du démarrage du client. J'en parlais avec François sur l'autre podcast. C'est ce démarrage, donc imaginons que vous aviez pris 50 licences parce que vous êtes une petite entité du groupe et puis le groupe décide de mettre 10 000 personnes à utiliser Slack. Il y a une transition qui est de basculer sur ces nouvelles façons de bosser et ça fait un petit peu peur au démarrage. Donc moi, je vais être là pour aider sur la partie un petit peu technique au début. C'est pas le truc le plus intéressant. Puis après, le lancement. C'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Honnêtement, c'est le moment où les clients sont le plus engagés, mais c'est pas le moment que je trouve le plus intéressant parce qu'ils sont en train de créer des nouvelles façons de bosser. Mais finalement, est-ce qu'on transforme à ce moment-là? Non, on implémente et on essaie de faire des choses assez basiques. Moi, ce qui me plaît, c'est la partie juste après, qui serait plutôt dans les 3 mois après le démarrage du contrat jusqu'au renouvellement, disons aux 12 mois, ou si c'est 24 mois, si c'est un contrat de 2 ans ou 3 ans. C'est cette partie où on va commencer à faire maturer vraiment le produit et la manière de bosser sur le produit. Et c'est ce moment-là qui me plaît particulièrement parce que, bon, ils ont démarré. Slack, de base, si tu connais pas, t'as l'impression que c'est juste un outil de chat. Et finalement, j'ai déjà utilisé WhatsApp, je sais comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de façons de bosser. Et on va devoir aider les leaders à visualiser ce que ça veut dire, ces nouvelles manières de bosser. Et puis les aider à les implémenter aussi. Si tu veux créer des bots, si tu veux implémenter des workflows. Donc, je te prends un exemple, ton outil RH, un outil type Workday. il y a des possibilités de juste demander tes congés directement depuis Slack. Ça va pousser l'information dans Workday, puis ça va revenir dans Slack, et puis ça va les parler, le bot, il va les parler directement à ton manager. Ton manager, il va dire accepter ou decline les demandes de congés. Et puis tout se fait et logué dans Workday, et puis tu as l'information qui va revenir vers toi, et on va dire tes vacances sont prises. Donc moi, mon job, c'est d'expliquer ça au client, que ça, c'est possible, et de l'implémenter avec lui, de l'aider à l'implémenter. Donc soit on le fait pour lui, soit il se le fait tout seul, et dans ce cas-là, je lui donne les différentes billes, soit je le mets en contact avec des clients qui le font déjà, etc. Donc moi, vraiment, mon enjeu, c'est de pousser la maturité et de les aider à obtenir le mieux de ce qu'ils peuvent de Slack, et qu'ils soient super contents au moment du renouvellement.
En effet, je ne me rendais pas du tout compte de toutes ces billes, de toutes ces possibilités qu'on pouvait faire dans Slack. Et c'était une de mes questions ou de mes pré-questions où je me disais, mais toi, en tant que CSM, je vais te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que l'outil, on le connaît, on l'apprécie, on l'utilise, c'est une routine. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Mais effectivement, là, c'est intéressant. Et à quel moment est-ce que tu vas prendre contact avec ton client? Comment est-ce que tu vas évaluer son niveau de maturité?
Mon enjeu, moi, c'est de monter toujours au plus haut. Donc, c'est d'aller parler avec leurs execs. Pas forcément un CEO d'une très grande boîte, c'est forcément très compliqué, mais au moins de le connecter, lui, si possible, avec notre CEO à nous, et qu'il puisse avoir une discussion, qu'il puisse vraiment penser au futur du travail et de la collab. Ça, c'est un point qui est important. Et puis après, moi, à mon niveau, ça va être à discuter avec le VP Sales, par exemple, ou un VP IT, et de dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? Donc le VP Sales, est-ce que... Donc c'est là où je trouve que notre job, il est super intéressant, c'est de me projeter dans son monde, dans son univers à lui, dans son contexte, avec les outils qu'il utilise à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est un pain point, qu'est-ce qui est une difficulté dans son job. On prend un exemple, les approvals de deal. Donc aujourd'hui, quand je suis une grande entreprise, que j'ai mes commerciaux qui font des boucles d'approval d'un discount, c'est pénible. Il faut que j'ai mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3, plus RevOps, plus le legal qui rentre dans la boucle et qui approuve ça. Comment est-ce que ça, qui est très complexe et surtout pénible à faire, est-ce qu'on pourrait mettre en place un petit bot qui va vous permettre de faciliter les choses et d'alerter les personnes, les bonnes personnes au bon moment parce qu'on est connecté au CRM? Donc moi, mon enjeu, c'est d'expliquer ça à un VP Sales, donc se focaliser sur un certain nombre de ces points, de rentrer dans son monde et lui trouver ensemble des solutions. Donc c'est ça mon job de CSM. Donc c'est assez cool parce que ça me permet de prendre plein de casquettes. Un coup, je vais parler avec la fonction commerciale, un coup, je vais parler avec les fonctions de communication interne, un coup, je vais parler avec les RH, un coup, je vais parler avec l'engineering, of course. Mais tu vois, il y a plein de casquettes à prendre. Et c'est tout mon enjeu. Et puis c'est d'extraire ensuite ces histoires, finalement, comment est-ce qu'ils bossaient avant, comment est-ce qu'ils bossent maintenant, pour au moins l'expliquer dans ma boîte, de dire, bon, bah voilà, on a tel client, il bosse comme ça, les commerciaux, ils connaissent les histoires, et puis ils peuvent aller parler avec d'autres commerciaux, et puis ils peuvent parler avec d'autres clients, des prospects, en expliquant ces histoires. Soit il les cite nommément les clients, parce qu'on a fait une value story avec le client, et on va pouvoir le citer, on l'a publié sur le blog, soit on le garde juste en interne pour nous, parce qu'on a besoin de savoir comment nos clients, ils utilisent le produit.
Avant de rentrer en détail dans ces méthodes de value story, qui est hyper intéressant, enfin toutes ces études de cas, de manière plus pragmatique, toi, quels sont tes KPI,
alors on va être mesuré en équipe principalement, et on va être mesuré sur l'addition de nouveaux utilisateurs actifs au global. Donc moi, on va regarder sur le périmètre Europe, on va dire le prochain trimestre, je te donne des chiffres au hasard, mais le prochain trimestre, il nous faut 100 000 utilisateurs actifs de plus, payants. On ne bosse pas sur le gratuit. Ouais. Ça, c'est une partie de nos KPI. La deuxième partie de KPI, c'est le churn, parce qu'il faut qu'on ait un œil quand même sur les clients qui churn. Donc, dans ce cas-là, on va se dire, il faut qu'on ait 98% de nos clients qui renouvellent et on se donne une enveloppe de 2% de churn. Est-ce qu'on on explose l'enveloppe ou est-ce qu'on est dans l'enveloppe? Et c'est comme ça qu'on est mesuré. Puis maintenant, on a des nouveaux KPI aussi d'OKR, d'objectifs en interne. Donc, on a les possibilités d'interconnecter les Slack. Donc, on va mesurer combien d'histoires on a là-dessus. Et ça, c'est plus des objectifs personnels. Donc, on a un certain nombre d'objectifs qui sont sur les personnes.
D'accord. Ouais, plus accès business et plus en interne.
Très accès business.
Ok, bah, d'accord. Ouais. Et toi, tu gères un portefeuille ou pas? Ouais. Parce que j'ai bien noté que vous étiez organisé en pod. Donc, combien de clients tu vas gérer? J'ai bien noté la partie multicasquette. Mais est-ce que tu vois peut-être des grands axes, des grands enjeux communs à ressortir?
Alors, on a différents types de CSM en fonction de la taille des clients. Donc, c'est difficile de dire, on a un portfolio qui est en gros d'une dizaine de clients à une quarantaine pour ceux qui ont des clients un petit peu plus petits ou des marchés qui sont un peu moins dynamiques. Donc voilà, tout dépend. Et puis après, on a aussi des CSM qu'on appelle scale, qui eux vont toucher des clients non pas, enfin, évidemment à l'échelle, mais surtout sur une durée de temps timée. Donc on va venir accompagner un client pendant 2 mois, 3 mois, en lui disant déjà dès le début, écoute, on te fait une fleur, on t'amène un CSM pendant une durée de temps très particulière. Et donc eux, ils ont un portfolio qui va évoluer tout le temps, qui va bouger tout le temps, parce que c'est très timé. Alors que moi, c'est ad vitam aeternam, tant que je suis là et mappé sur ce compte, vous avez un CSM.
Toi, tu es spécialisé sur les gros comptes, du coup, tu vas avoir combien de clients? Et est-ce que
Moi, j'en ai une
c'est
dizaine.
une dizaine de clients? Et c'est une segmentation par taille de
Région.
compte, pas par secteur ou quoi que ce soit.
Ouais, région. Région pour nous. En plus,
Oui,
il y a
région.
la langue qui est importante. Mais voilà, région et dépenses, ce qui dépense leur montant.
Tu nous dis un petit truc en russe?
Pff, ce que tu veux. Очень люблю. J'aime beaucoup travailler en Russie. J'aime beaucoup l'approche, la culture russe dans les nouvelles technologies est intéressante parce que, quels que soient les comptes, ils sont. Vraiment, ils ont un objectif d'efficacité. Et c'est ce qui me plaît avec eux. Alors qu'une culture plus latine, on va être plutôt dans dire non d'abord, dire ah non, ça m'intéresse pas, avant de dire ah bah tiens, j'ai vu un tel qui le fait, explique-moi comment ça fonctionne. Les Russes, eux, t'as même pas encore abordé le sujet, qu'ils sont déjà à fond dessus, quoi. Et ça rend ma vie tellement plus facile. C'est très intéressant.
Seulement,
Ouais.
ouais.
L'approche est plus intéressante. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais ils sont plus axés sur l'efficacité.
Trop bien. Alors, revenons-en à notre value story et ta manière de gérer tes clients au quotidien. J'avais entendu dans le podcast de François que tu utilises le logiciel Salesforce et comment est-ce que tu vas animer ton portefeuille?
Alors, mon point d'entrée, c'est Slack. Donc le CRM, c'est intéressant, ça me permet d'avoir plein d'informations. Mais mon point d'entrée, c'est Slack. Pourquoi est-ce que j'utilise Slack? Parce que tous mes comptes, en fait, sont dans Slack. Je te donne un exemple. Notre plus gros compte chez Slack, c'est Amazon. On a un channel, un espace de discussion qui s'appelle Account Amazon. Et n'importe qui dans la boîte peut aller voir ce qui se passe, toutes les discussions qui se passent sur le sujet Amazon. Donc a priori, quand moi j'ai rejoint la boîte, je me suis dit, quel est le compte le plus intéressant, c'est le plus gros, allons voir un peu comment ils bossent avec eux. Donc ça, c'est les discussions internes. Et en fait, chez nous, tous les comptes, tous les discussions, toutes les. Donc account Amazon, account Oracle, pour donner quelques-uns, account Salesforce, c'est les trucs qui sont publics, enfin qui sont connus, ont un channel où on va bosser avec. Et on fait ça pour tous nos comptes. Donc tout est en public. Toutes nos discussions internes, elles sont en public. Donc c'est une espèce de librairie en interne qui est assez folle, où on a toute l'information. Et puis après, on automatise avec Salesforce pour avoir des rapports, pour avoir des choses qui vont venir dans nos différents channels. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième sujet, maintenant qu'on a parlé de la collaboration en interne, comment est-ce que je collabore avec mes clients à moi? Ben, un petit peu de la même façon. Au lieu d'avoir juste un account Amazon, on va avoir aussi un external channel. Donc, on va l'appeler Ext. On va donner le nom du compte. Et puis, on va bosser avec eux là-dedans. Donc, en fait, on va connecter notre Slack avec leur Slack. Et on va avoir un channel partagé entre les deux. Ce qui fait que moi, je bosse dedans de mon côté. Et donc, j'ai toute ma liste de comptes. J'ai mes 10 comptes qui sont connectés avec mes 10 clients principaux. Et on collabore au quotidien ensemble dedans. Et comme ça, on n'utilise plus d'email, ce qui est déjà assez pratique. Mais surtout, ce qui me permet de multithreader, tu sais, d'augmenter le nombre d'interlocuteurs. Parce que si je bosse avec un tel de l'IT et puis je lui dis, bah voilà, il y a cette intégration avec Workday qui est super intéressante, tiens, ramène la personne de l'IT qui est en charge de Workday ou qui est en charge des RH et on va le faire venir dans le channel, dans la discussion. Donc c'est un petit peu comme si j'avais une discussion WhatsApp en fait où les gens ils se rajoutent au fur et à mesure et puis je vais avoir plein d'utilisateurs, plein de gens qui vont venir dedans. Et donc, à la base, j'ai un channel comme ça dans lequel je vais discuter avec les clients. Puis après, je vais faire un channel souvent avec des champions en face. Et j'ai des discussions où on est jusqu'à 150 dedans. Ça me fait un petit peu ma communauté d'utilisateurs Slack chez le client. Et pour moi, c'est royal, quoi. C'est incroyable, ce pouvoir de discuter dans un endroit.
C'est royal de ne plus utiliser de mail. Enfin, franchement, les boucles mail, c'est l'enfer.
Ah, plus de mail, moins de meetings aussi. On me dit souvent, est-ce que je peux assister à tes calls avec les clients ? En fait, ça devient un peu plus informel. Tout est en public, tout est visible. Donc, par exemple, l'IT, qui est souvent un peu un bloqueur pour moi au début, je leur montre que toutes les discussions que je vais avoir avec leur communication interne, par exemple l'équipe de com interne, je dis, voilà, il n'y a pas de souci, vous voyez tout ce qui se passe, regardez, c'est dans le channel, ils sont là avec nous, vous avez visibilité, je ne dis pas des trucs secrets ou autres, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, on limite un peu les calls, les meetings, et puis j'évite, je te le disais avant, les QBR, moi qui est un sujet qui me gonfle particulièrement, les QBR. Et donc, j'essaye de restreindre ça, et dès que possible, je fais venir les execs dans ces discussions. Et puis, on commence à s'envoyer des direct messages, tu sais, un petit peu comme on s'enverrait sur Messenger, l'un l'autre. Et puis, on commence à connecter comme ça. Ils voient la valeur que j'apporte à leur entreprise. Donc, ils viennent me poser des questions. Et puis, ça devient très informel. C'est, tiens, est-ce qu'on peut se faire un petit zoom très rapide là maintenant ? J'ai une grosse question là-dessus. Est-ce que tu peux nous aider ? Allez, feu. Alors qu'avant, par email, ça serait jamais venu, quoi. On n'aurait jamais eu cette proximité qu'on a avec nos clients.
Donc, pas de QBR, c'est-à-dire pas de réunion trimestrielle un peu formelle pour donner des chiffres top-down, en fait, descendant. Ouais. Pourquoi tu trouves que c'est pas une bonne méthode ?
Je trouve que c'est... J'ai vu une discussion l'autre jour d'un ancien de mes managers sur LinkedIn qui disait que c'est souvent fait pour le fournisseur et pas trop pour le client. Le client, aujourd'hui, il a... au moins des centaines de fournisseurs de produits de software. Et on va lui demander de faire un quarterly review. Enfin, tous les trimestres, on va faire une revue ensemble de vos résultats. Puis souvent, ces chiffres, en fait, tu peux leur faire dire un peu tout ce que tu veux. Et c'est pas très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'éviter ça de plus en plus. Parce que déjà, ça me gonfle personnellement de le faire. Puis je me mets à leur place. Je me dis que c'est pas forcément très rigolo. Puis ça donne un formalisme qui est pas très intéressant. Ça veut pas dire... qu'on ne bosse pas sur des sujets qui sont importants et que ces chiffres, les chiffres, ils doivent les recevoir. Donc, comment est-ce que je fonctionne ? C'est mon grand sujet de ces dernières années. Là. C'est le Joint Success Plan. Donc, c'est de bosser ensemble, de faire moi mon boulot de CSM, de voir mon compte et de connaître le compte par cœur, de connaître cette boîte comme si j'y bossais. D'aller voir leur rapport trimestriel, donc quand ils publient leurs résultats, d'aller voir les rapports trimestriels et puis de voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, d'aller voir leurs priorités et de creuser dessous. Donc je fais un peu mon point de vue sur leur façon de fonctionner et puis je vais creuser. Donc je vois tel compte, leur grande priorité c'est de faire telle chose, c'est d'accélérer la vente, c'est de rapprocher les clients, d'avoir moins d'incidents. Et puis derrière, moi je vais pouvoir mettre des objectifs particuliers avec Slack. Donc, vous voulez accélérer vos ventes, et ben on va se donner 4 objectifs là-dessus, dans lesquels Slack, j'ai pas de grosses ambitions, dans le sens où je dis pas que Slack, ça va répondre à toutes vos problématiques et immédiatement, ça va transformer votre boîte. Par contre, je pense que notre produit va vous aider sur ces différents éléments. Et donc mon approche, elle est complètement opposée. Au lieu de partir de mon produit directement et de venir en disant, voilà, il va faire ça, 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 c'est de partir de eux et de partir tout le temps d'eux et d'aller voir les différents éléments qui sont chez eux et de comment est-ce qu'on va vous aider là-dessus. Ce qui fait que ça nous permet de nous donner des grands objectifs, ça ne nous empêche pas de faire du learning, ça ne nous empêche pas de faire des webinars, de faire des choses comme ça, mais surtout, ça va donner une grande direction qui va intéresser les execs. Et donc, derrière, ça va descendre au niveau des équipes, et ça permet de donner les grandes directions. Et ça influence complètement la stratégie de déploiement de mon outil, et aussi la perception de notre accompagnement. Ce n'est pas juste « je viens, je vous aide, et puis je pars ». On est vraiment de manière stratégique avec eux.
Hyper intéressant. Je te propose de passer à la partie retour d'expérience puisque tu nous disais que tu connais tes clients sur le bout des doigts. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote gratinée ?
Dans la culture russe, parfois, même s'ils sont vers l'efficacité, il manque l'humain. Et l'humain, il est super important dans cette culture. Et normalement, on devrait aller les voir, aller passer un petit peu de temps à Moscou et aller boire un coup et discuter de tout sauf du business. et l'approche un peu américaine, anglo-saxonne, qui est un peu froide et qui est tout de suite, bon, on est là pour parler de business et de faire nos trucs et puis on s'en va, ça marche pas trop. Et là, avec le Covid, bah, c'est compliqué, on n'a plus du tout cet humain, donc on est vraiment dans cette froideur. En plus, il y a la langue qui est par-dessus. C'est pas évident. Donc, ce qu'on a fait ces derniers temps, on boit un coup le vendredi soir avec un de mes directeurs IT en Russie, d'une grande entreprise. Et on boit juste un coup et on parle de tout et de rien. Et il est dans sa dacha. Moi, je suis avec mon account manager et on parle surtout pas de business. Voilà, c'est un truc quand même très atypique. Et il faut voir les images pour le croire. Lui, dans sa dacha, recouvert de neige, en train de faire un barbecue dehors et de boire un coup de vodka. Et puis moi, en Irlande, avec une pinte et de discuter comme ça. Mais c'est trop cool en même temps. Parce que là, tu brises vraiment la barrière. Et puis après, quand tu fais une petite réunion en disant, bah voilà, on voudrait discuter de telle chose, faire un article avec le marketing sur comment vous utilisez Slack, est-ce que ça vous dit ? Oui, il n'y a pas de problème. T'as complètement brisé la glace. Donc voilà, aller boire une bière de temps en temps avec un client, même en Zoom, ben ça marche, quoi.
Et à contrario, quelle est la situation la plus compliquée que tu aies rencontrée dans ton métier ?
Je pense que c'est la frustration qui naît. J'ai bossé un temps sur le marché français avec des clients qui n'ont rien à faire, mais vraiment rien à faire. C'est pas leur priorité et ils voient pas l'intérêt du produit et ils ont même pas un minimum d'envie de regarder ce qui se passe dedans. Je l'ai eu une fois avec un client comme ça où j'avais préparé justement un QBR, c'était mon premier chez Slack, et j'arrive, j'avais tous mes chiffres, toutes mes analyses en disant bon bah voilà, on va pouvoir bosser là-dessus. Et le gars il me regarde et puis il me dit non mais je crois que t'as pas compris, moi je m'en fous. Et je dis comment ça, je m'en fous. Non, moi je veux pas que les gens ils utilisent mieux Slack. Parce que si un jour on a besoin de supprimer un outil, ben, je veux que ça soit facile et qu'il n'y ait personne qui râle. Donc autant pas avoir une grosse adoption. Et je t'avoue que les bras m'en sont un peu tombés. J'ai fermé mon slide, ma présentation en me disant « Écoute, je crois qu'on n'est pas aligné du tout sur ce qu'on veut faire ensemble. » Et c'est dommage, parce qu'en plus c'est une belle boîte. Tu dis « Il y a tellement de choses à faire » et ils n'ont pas eu encore le clic, le côté « Ah ouais, ça pourrait être énorme tout ce qu'on pourrait faire. » Et d'avoir des gens qui ne sont pas intéressés, en fait, c'est le pire. Je l'ai parfois avec le procurement. Procurement qui arrive un peu en mode cow-boy. Et tu dis, mais procurement, parlez avec mon account manager et moi, laissez-moi parler de la valeur avec les utilisateurs et avec les équipes métiers directement. Et c'est pour ça que je pense que je ne serais pas un bon AI, un vrai account manager au sens commercial du terme. Moi, je veux parler avec des gens qui sont intéressés et seulement avec ça. Parce que j'adore notre produit et j'adore ce que tu peux faire avec. Donc voilà, ce serait cette frustration, je pense, qui est les pires moments.
Ok, tu nous laisses les tâches difficiles, merci.
Non, je pense que c'est un travail. Et puis il y a un moment où tu dois être un peu aussi good cop, bad cop, quoi. Le bon flic et le mauvais flic.
C'est vrai.
On ne peut pas tout prendre dessus. Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Parce qu'il y a des moments où il faut diviser un petit peu les tâches. Et puis ça permet de faire sortir le mieux de cet exercice.
Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne lorsque tu as démarré ton métier ?
Si le produit vous fait peur déjà de base, n'y allez pas. N'y allez pas parce que vous allez quand même vivre dedans. Maintenant, si le produit vous plaît, soyez proche du produit, mais ne parlez pas du produit tout le temps. Rappelez-vous que le plus important, c'est le client et son business à lui. Donc nous, on n'est qu'un outil. Un outil, c'est un outil. On n'est qu'un outil et on n'apporte qu'un outil. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est le client d'abord. Donc, quand on démarre, on apprend le produit, on doit le maîtriser sur le bout des doigts, même les trucs qui sont un peu pénibles dedans. Mais surtout, s'en décrocher dès que possible.
Comment va évoluer le métier d'account manager, alors au sens large, dans les prochaines années, selon toi ?
Je pense qu'on va être toujours plus orienté sur la valeur. À l'ancienne, quand on bossait avec un seul fournisseur qui dictait un peu sa loi, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une multiplication et chacun apporte une vraie brique de valeur. Je ne crois plus au simple renouvellement qui va se faire tout seul. On va toujours travailler en tant que CSM sur cette branche de valeur. Et si tu espères que ça va juste se passer, ben, ça ne va pas le faire. Donc les clients, ils ne sont pas fous. Hein. Ils le voient bien et puis ils veulent le mieux pour leurs équipes. Il y a des vrais challenges à l'heure actuelle. Donc moi, je pense que le métier il va continuer à se porter sur cette valeur et plus sur simplement l'onboarding. Trouver comment est-ce qu'on vous aide et comment est-ce qu'on va le mesurer.
Je termine avec ma question rituelle qui est: quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi ?
J'ai un film qui m'est venu à la tête, c'est Inception. Il y a un côté comme ça où on démarre avec un truc et puis moi, mon jeu, c'est de dérouler la pelote ou d'aller, de rentrer dans toujours le truc d'après, le truc d'après, le truc d'après, parce qu'en fait, c'est infini le nombre de use cases qu'on a avec Slack. Donc Inception, on démarre avec un truc et puis on réalise que bah, en fait c'est pas que l'engineering, c'est aussi la communication interne, mais vu qu'on met ça en place, il y a aussi ça, et il y a ça aussi, et ça aussi, et en fait c'est infini, donc il y a un petit côté Inception et j'adore ça.
Top, bah écoute, merci beaucoup Jonathan, c'était très chouette, et puis je te souhaite bonne continuation chez Slack.
Bah merci Darina, et puis bah bravo pour ton podcast, c'est top ce que tu fais. C'est un exercice pas évident et je trouve que tu t'en sors super bien, donc vas-y, continue. C'était un grand plaisir.
À bientôt, salut.
À bientôt.